Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 18 mai 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer...
Ouais, maintenant!
Le supplément B Weekend avec l'actu BD, manga, ciné, DVD.
Et pas TV, suivi de...
Le potager, c'est à 15h.
Et ensuite...
À 16h, c'est scène transmission. 17h, Big Bang. 18h, vie d'ordure. 19h, Happy Hour. 20h, la Cetero Experience. 21h30, stay tuned. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct jusqu'à 5h. Du matin. Émission un peu calme aujourd'hui dans le supplément week-end puisque nous aurons des directs spéciaux en direct de Paris, capitale de la Franco-Belgique, en direct de Cannes et en direct des studios à Radio FMR à Toulouse. Bref, aujourd'hui ça va un peu chauffer et ça va plutôt être costaud et même efficace. Ça va Thomas ?
Ça va et toi Xavier ?
Ah bien placé.
On est encore du beau temps et avant l'orage qui va péter ce soir.
Ah non, dis pas de malheur, chaque fois que j'allume un barbecue, ça se finit comme ça.
Ah putain.
Et pourtant, griller des saucisses, j'y arrive même sous la pluie, ça tient de l'exploit. On commence avec The Music Maker, sa wannabe, c'est du two-step.
Come on then, yeah, yeah, come on. Come on then, yeah, yeah.
Et notre premier invité est arrivé juste sur le speed. Bonjour Alex.
Bonjour à vous deux.
Merci d'être venu dans le supplément week-end. Aujourd'hui, c'est un peu à la bonne franquette. J'avais parlé de barbecue, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est un peu ça l'idée puisqu'on va passer sur le grill une première personne pour le festival Star qui a lieu à Terre-Blanque-Saint-Lys et qui est en fait un peu en écho à Explosion d'usine.
Oui, alors, ouais.
Explosion d'usine, je croyais que c'était en septembre.
Attendez, ça se passait en... Oui, c'est vrai. Non, alors, l'Explosion d'usine, c'était ce festival de fanzine qui se déroulait à Miris à l'époque où ils étaient rue de Metz.
Ouais, à l'ancienne préfecture.
Voilà. Donc, c'est un festival de fanzine DIY. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est...
Do it yourself.
Voilà. Donc, nous, c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on fait ce festival do it yourself. Donc, ça veut dire qu'on fait tout nous-mêmes. Hier soir, on était encore en train de fabriquer des toilettes sèches. Donc, voilà, on fait vraiment tout nous-mêmes. Et l'Explosion d'usine, donc là on s'est mis en partenariat, le label Brasseuse qui présente le Festival Star depuis un an, s'est mis en partenariat avec l'Explosion d'usine, tout simplement pour faire une plus grosse fête. Voilà.
Donc l'idée c'est de sortir de Toulouse ce qui, pour avoir plus de place et faire beaucoup plus de choses.
Alors ça c'est au final c'est ce qui se passe et on a beaucoup de chance grâce à ça parce qu'on est accueilli par l'association Terre Blanque qui a un grand espace à...
Oui, ils ont un très grand terrain. Oui,
ouais, ouais. Ça se passera d'ailleurs sous chapiteau, les stands seront dans une salle, mais en fait nous les événements qui font ça, c'est qu'en fait avant on était au clan D et on s'est fait expulser et puis Miris s'est fait expulser, donc en fait nous, vu qu'on est des squatteurs
invétérés,
bah voilà, on s'est retrouvés
c'est pas bien, c'est pas bien, tu sais que maintenant c'est Kouchner au gouvernement, vous allez pas tenir très longtemps.
Oui,
dans les
mais
squats.
Ça fait longtemps qu'en fait il y a des directives européennes qui sont passées pour virer tous les squats d'Europe, donc on fait juste partie d'une grande vague qui une déferlante qui va continuer, quoi. C'est fini l'époque des quartiers entièrement squattés, hein, on le sait. Et donc voilà, donc là cette année on s'allie avec l'Explosion d'usine pour faire ce gros festival et il y aura énormément d'intervenants, donc pas mal d'intervenants des fanzineux toulousains et puis aussi des gens d'ailleurs. Bon, je sais pas si vous ça vous parle, les exposants, c'est que des petits. Si, les requins marteaux, vous devez connaître.
Ah bah oui, quand même.
Voilà. Après le menstruel, je sais. Enfin, alors collectif pirate, mais.
Yamat Couture,
voilà.
Dont on connaît le travail. Bon, Act Up, d'après ce que j'ai compris, surtout un travail d'affichiste. Le FLP, qui me semble qu'on a déjà vu, hein,
oui.
Dans nos locaux.
Oui, c'est fort possible qu'il fait des affiches. Ruin Comics, ce sont des gens qui viennent de produire un livre. Voilà, avec plein de fanzines, dont Nicomics dedans. C'est vrai que c'est que soit des personnes qui font un petit fanzine chacun dans leur coin, soit des gens. Mémé Rosa, par exemple, c'est quelqu'un qui crochette avec des sacs en plastique. Voilà, qui va proposer un modèle de porte-gobelet en crochet, en plastique. Des choses très très jolies, hein. Unearth, ils font de la diffusion, ils font de la prévention auditive, donc ils diffusent des bouchons d'oreilles et dans les concerts rock'n'roll punk très bruyants.
Ouais, nous... puisqu'il faut rappeler qu'il vaut mieux, enfin la législation c'est 105 dB en moyenne et 110 en pointe, mais 110 décibels en pointe c'est déjà absolument énorme. C'est à moins de 100 mètres d'un Airbus au décollage et encore d'un petit pas d'un 380 et la prévention auditive, on en sait quelque chose vu le nombre de DJ qui sont absolument sourds dans cette radio.
Ouais, mais pas que des DJ, les ingé-sons aussi ont tendance à être un peu sourds.
Il n'y a pas d'ingé-son à FMR, hein.
Non, mais moi je parle dans les soirées. Et des fois, nous justement, ça fait partie de nos envies. C'est pour ça aussi qu'on est allié à ACT UP pour faire de la prévention drogue et puis distribuer des capotes gratuites. Ça se fait plus, hein. Et Unearth, donc on distribue des bouchons, mais pour pas être complètement. C'est un peu ridicule de mettre les watts à fond d'un côté et puis distribuer des bouchons de l'autre. Donc on travaille aussi pour avoir un son pas trop fort. Et donc c'est une envie aussi que les gens, en fin de compte, qu'ils aient un confort d'écoute optimal. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fragiles des oreilles. Moi, c'est mon cas après avoir enchaîné des concerts et des concerts.
Je mets il y a assez de concerts, il y en a d'autres ici. C'est été le grand boom de 2001, justement, l'explosion de l'usine.
Oui,
et
c'est vrai
qu'à Toulouse, il y a une forte proportion de personnes qui ont été fortement agressées aux oreilles.
Ouais.
Donc peut-être que les ingé-sons vont finir par faire des bonnes sonos, c'est-à-dire pas obligé de faire fort pour avoir tous les détails. Mais bon, ça, c'est un autre détail.
C'est un autre débat, ouais.
Voilà. Sinon, accessoirement, donc parmi tous les fanzines qui sont présents, il y a aussi Besseron qui est en expo. Alors, des requins marteaux.
Ouais, alors Besseron qui est bon, donc on a pu découvrir son travail avec Toulouse Septembre Noir, tiens justement.
Voilà.
Qui est une BD qui parle de l'explosion de l'usine AZF. Bah, il expose en ce moment au Voltigeur, qui est cet espace associatif dédié aux BD, fanzines. C'est une librairie alternative aussi, c'est une salle d'expo. Donc il expose au 23 rue des Couteliers. Et alors son expo est très jolie, c'est ses dessins un peu ronds de personnages. C'est un peu caricatural, c'est ce qu'il fait lui. Hein.
Tout à fait, voilà. Tout à fait.
Donc amateur de rock'n'roll, de bière et de stars, il allait parfaitement avec ce festival. Et puis également la médiathèque associative, les musicophages, aussi rue de la Bourse, il y a le collectif de graffitistes de Barcelone, Nos Martinest. C'est vrai que ça se dit pas graffitiste, hein. Moi je dis pas.
Un petit graffeur. Hein. Avec aussi, on a donc vendredi prochain, il y a des concerts qui sont intéressants. Too Many Cowboys, Duremer, Radical Satan, Rectus et Absinthe Provisoire, et moi ambiante à la tronçonneuse.
Oui.
Je lis le fly.
Et c'est pas facile à sonoriser, je peux vous l'assurer.
En DJ, c'est les mots hip-hop avec Sik, Niol, Piloul, Shum, Shuma Family. Et le lendemain, le samedi, il y a deux tous Leningrad tout et mots fanfare russe. Semi-playback, le massacre du client de 15h, hémorragie. Hémorragie, je viens de la comprendre. Gas Mask Terror, émo du terroir. Yatai, Fatal Nunchaku. Et en DJ, Miss France, Hyacinthe et Dancelore. C'est un peu. Oui, c'est vrai que l'émo est très à la mode. Là. On a eu de l'émo Super Sentai, des robots qui massacraient du super géant en émo. C'était déjà pas mal, mais là, je crois qu'on touche le fond.
C'est vrai, là, on touche le fond, et sachant qu'en plus, il n'y a pas un seul groupe d'émo, mais bon, ça, c'est un. C'est notre. Voilà. Mais voilà. Pour ceux qui sont pour l'explosion d'usine, ça démarre à 14h les vendredis 25 mai et les samedis 26 mai. Ça dure toute l'après-midi, un petit peu encore en soirée. Il y aura des stands, des projections. Un atelier de gravure, donc vous pouvez amener votre t-shirt et on vous fera une sérigraphie en direct. Voilà, il y a un camping sur place. Les infos techniques, c'est que c'est à Terre-Blanc, à 30 km de Toulouse. Donc il faut, c'est direction Saint-Lys, c'est juste avant Saint-Lys. L'entrée, c'est 5€ l'adhésion à l'association Terre-Blanc pour l'année. Après, vous pouvez venir régulièrement, tous les événements seront gratuits. Et nous, il y a un prix libre en plus en soutien au label Brasseuse. Il y a une navette en bus pour 2€ l'aller-retour. Le départ, c'est au métro des Arènes. Alors en fin de compte, c'est celle de 21h qui est maintenue sur vendredi et samedi à 21h, avec retour dans la nuit en ville de prévu. Je vous donne le numéro de l'infoline et de la réservation.
Je crois que le mieux pour avoir plus d'infos, c'est le site internet de la radio, qui est très bien fourni.
Ah oui.
Ce sera beaucoup plus simple. Oui. www.radio-fmr.net. Pour en savoir plus sur ce festival de la bière, des fanzines et des stars.
Je te coupe parce que oui, FMR qui est partenaire du festival.
Voilà,
qui
exactement.
Fera direct.
Alors, on sera en direct à partir de 17h sur place samedi prochain.
Ouf, voilà.
On évite ça. Et le lendemain, en plus, c'est le Forum des langues, place du Capitole. C'est une émission totalement en direct et d'un peu partout. Je crois qu'on a Laurent Méliquet en direct de la capitale de la Franco-Belgique. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Je crois qu'on a Thomas en direct de Cannes. Thomas, bonjour.
Oui, bonjour.
Tu es où à Cannes ?
Non, je suis pas à Cannes, je suis à côté de toi là.
Ah pardon, excuse-moi. Laurent, comment vas-tu ?
Oh mais ça va.
Ça va.
Ça va magnifiquement.
J'espère que tu nous entends parce que c'est un peu faible.
Parfaitement de mon côté. Alors et comme ça c'est mieux ?
Oui.
Oui, ça va un peu mieux, ça va largement mieux. Laurent, tu fais partie de la CBD, l'Association des critiques de bande dessinée, qui est donc...
L'Association des critiques et journalistes spécialisés en bande dessinée.
Attention.
Au pluriel.
Ouais, attention, c'est mieux de...
Ça, tu fais corriger en direct, Xavier.
J'ai l'habitude.
C'est pas comme
chaîne,
si tu
etc.
en étais membre aussi, enfin bon.
D'accord. Il y a eu, comme chaque année, donc un prix qui a été remis un peu en dehors du festival d'Angoulême, puisqu'au départ le prix Bloody Mary faisait partie de la sélection officielle, et puis on a été plus ou moins écarté. Et cette année,
on s'est un peu retourné, on a un peu changé ce prix qui maintenant s'appelle le prix de la critique. Et on peut dire qu'il est plus du tout remis à Angoulême, puisqu'il est annoncé un peu avant. Et même cette année, il a été remis lors du Salon du Livre de Paris.
Mais il a été annoncé juste avant le palmarès d'Angoulême, rien que pour emmerder les organisateurs, bien évidemment.
Oh ouais, mais du coup, c'est marrant parce que là, ça se passe début décembre. Il y a une espèce de saison littéraire bénéfique, puisque en même temps, il y a aussi le prix RTL qui est remis, plus deux, trois autres prix, le prix scénario.com, etc., qui a fait que cette année, on s'est retrouvé avec coup sur coup 4-5 prix assez importants, résumant l'année, qui avaient été remis, c'était aux environs du 2-3 décembre.
Oui, ça correspond à la saison des prix littéraires, justement.
Ouais, un espèce de contre-coup.
Voilà, et là, donc, il y a un prix Asie ACBD, qui n'est pas exclusivement destiné au manga, et qui, en fait, aura lieu en même temps qu'un important festival qui a lieu à Paris, dont on a parlé la semaine dernière sur cette antenne. C'est Japan Expo.
Japan Expo, oui.
Voilà.
Qui aura lieu, je crois, du 5 au 7 juillet, quelque chose comme ça. Bah oui, effectivement, on peut dire que si le cœur de la BD bat à son maximum fin janvier pour Angoulême, aujourd'hui le cœur de tout ce qui est culture jeune, ou disons contre-culture, même si c'est un vieux mot de 68, bat maintenant à peu près au début juillet, lors de cet événement qui est Japan Expo. Qui est un salon qui a été monté par des étudiants, il me semble en 99 ou 2000.
Oui, c'est un peu la suite de ce qui existait déjà à Toulon avec.
C'est ça. En fait, ça a été, disons que dans la myriade de petits événements, pratiquement des événements fanzineux qui pouvaient se dérouler autour du manga, celui-ci a émergé. Y en avait un effectivement à Toulon qui était monté à Paris. Je me souviens plus de son nom.
Cartooniste.
Ouais, c'est ça. Et bon, du coup, nous, la CBD, cette association qui représente maintenant en gros 70 journalistes, critiques, gens qui s'intéressent beaucoup à la bande dessinée, parfois on passe un peu pour des vieux cons auprès des lecteurs de manga. Alors que, en fait, si on regarde notre activité, si on regarde ce qui s'est passé justement autour du prix de la critique ou prix Bloody Mary, on avait souvent un manga ou une bande dessinée, disons, d'origine asiatique, hein, pour être plus précis, qui apparaissait parmi les sélectionnés en finale.
Oui, et des fois, écarté de la finale, parce qu'à ce qui paraît, c'est les presbytes qui vont gagner et les myopes vont s'emmerder, c'est ça. Je me souviens d'une passe d'arme homérique.
Oui, c'est possible. Enfin, c'est sûr qu'il y avait un petit handicap aux bandes dessinées asiatiques, aux bandes dessinées publiées sur un papier légèrement plus cheap, et encore, c'est pas toujours le cas, que les bandes dessinées franco-belges. Il y avait une petite barrière culturelle à faire tomber auprès de certains, mais vraiment, je dirais, une minorité. Donc du coup, on a profité de cet événement, profité aussi de la volonté des organisateurs de Japan Expo pour se dire, ben voilà, on va remettre un prix annuel à une bande dessinée d'origine asiatique, en espérant avoir deux effets. Bon, d'une part déjà que tout le monde à un moment puisse s'intéresser à ce type de bande dessinée. Et puis, d'autre part, passer un peu moins pour des vieux cons auprès des jeunes cons, je dirais. Et pourquoi pas avoir parmi nous des gens beaucoup plus intéressés, beaucoup plus spécialisés dans la bande dessinée asiatique.
Alors, c'était un débat, puisque la semaine dernière, sur cette émission, on recevait Patrick Abri des éditions Tiaopan et Sébastien Langevin pour une conférence qui a eu lieu après à la médiathèque José Cabanis, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le podcast de l'émission en entier. C'était un débat que l'on a eu, c'est est-ce que finalement, à vouloir faire un magazine à part, à vouloir faire un prix à part, est-ce que on va empêcher justement qu'il y ait à nouveau un melting pot, c'est-à-dire que les lecteurs qui sont venus à la bande dessinée par la manga vont pas forcément se retourner vers la bande dessinée européenne?
Il y a toujours un risque, mais enfin je pense pas. C'est-à-dire que ces jeunes qui vont s'intéresser à notre prix, savent à peu près qui on est, parce que ça veut dire que ce sont des gens quand même qui s'intéressent aux coulisses, je dirais, de la production, et peuvent voir que par ailleurs, nous louons d'autres types de bandes dessinées. Donc je pense qu'on est beaucoup plus dans un courant qui permet d'admettre les qualités de chaque bande dessinée, d'où que soit sa provenance, plutôt que dans quelque chose de sectaire. Enfin, oui. J'espère. Hein.
Puis de toute façon, votre vocation, c'est surtout de mettre l'accent sur des BD d'auteurs. Et quand on parle de BD d'auteurs, le cloisonnement entre manga et BD franco-belge, ça vole en éclats de toute façon. Donc c'est vraiment votre...
À mon avis, il a volé en éclats dans la franco-belge aussi. Hein.
Oui,
d'accord.
C'est fini cette histoire. Enfin, je crois, hein, aujourd'hui, ceux qui s'accrochent encore au terme BD d'auteur représentent l'arrière-garde. Il n'y a plus... Je pense à partir du moment, et c'était déjà le cas dans les années 70 quand tu avais Tardy qui faisait de gros succès, à partir du moment où tu as une Marjane Satrapi, où tu as un Rabaté et d'autres, hein, beaucoup de noms d'auteurs m'échappent, qui font une bande dessinée que moi je qualifie tout simplement d'intelligente et qui rencontre un public assez important, est-ce qu'on peut encore parler de BD d'auteur?
À la limite, si uniquement pour faire plaisir aux tenants de la vérité absolue de l'association, encore, je ne suis pas sûr.
À Télérama.
Oui, et encore, je pense que là-bas aussi, Télérama, de toutes les manières, ne parle pratiquement jamais de bande dessinée. Et aujourd'hui, quand on en parle, ce dont on parle le plus à Télérama, il me semble, hein, c'est de manga plus que de bande dessinée.
Ouais. Ouais, maintenant faut se méfier puisqu'il y a quand même des gens de Télérama qui votent sur cette sélection.
Non, il y en a plus.
Il y en a plus, d'accord, ok.
Il y en a plus, c'est fini.
Faudrait qu'ils soient un peu plus souvent dans le forum privé de la CBD. Parmi donc les 5 titres qui ont été sélectionnés, on note 4 mangas et une manhwa.
Alors
là, non, il y a 2 manhwa, pardon.
Il y a 2 manhwa, effectivement.
Ouais.
Donc on peut peut-être donner les 5 sélectionnés. Alors j'ai pas de liste sous les yeux.
J'ai la liste sous les yeux. Donc chez Casterman, Fleur de Park Kun-wong. Jen d'Hiroshima de Keiji Nakazawa, c'est chez Vertige.
Oui.
Journal d'une disparition de Hideo Aduma, chez Kana. Massacre au pont de Nongunri de Park Kun-wong et Chun Heon-yong. Et l'orchestre des doigts d'Osamu Yamamoto. Le Massacre au pont, c'est chez Vertige. Et l'orchestre des doigts, c'est chez Milan.
Exactement. Alors oui, il y a 2 bandes dessinées coréennes. Il faut dire que les 2 bandes dessinées coréennes sont du même auteur, enfin du même dessinateur,
oui,
qui est Park Kun-wong, qui est un jeune auteur que on vient tout juste de découvrir en France, puisqu'il a sorti 2 titres, et ces 2 titres sont sélectionnés parmi les 5. Il y a eu un phénomène coup de cœur, parce qu'on a affaire à un auteur soucieux de la mémoire de son pays, hein, de tous les traumatismes qu'a pu traverser la Corée.
Ce qu'on a parlé justement dans la conférence, c'est que jusque dans les années 80, le manga était très très restreint par la dictature militaire.
Oui, certainement, parce que là, c'est un domaine qui nous est un peu étranger, savoir ce qui se passait là-bas il y a encore 10 ans, je dirais. Et là, non seulement donc cet auteur a cette volonté de préservation de la mémoire, mais en plus c'est un dessinateur absolument fabuleux et un auteur de bande dessinée complet, c'est-à-dire que non seulement il a un style graphique tout à fait cohérent et tout à fait personnel, mais en plus une narration, une aisance dans la narration tout en utilisant des moyens pas forcément aisés d'accès qui sont stupéfiants. Fleur est un bouquin en 3 volumes, le premier volume est entièrement muet. Et ça, c'est qu'on le sait que c'est quand même une narration casse-gueule. Hein. On se souvient d'expériences faites sur des histoires d'une dizaine de planches. Au bout de 10 planches, on comprend plus rien de ce qu'on essaye de nous raconter parce que le regard n'a pas de point d'accroche. Et là, ça fonctionne tout de même sur 300 pages.
Laurent, on va arrêter le détail ici parce que là, tu es en train d'orienter ma sensibilité de juré.
Oui, je suis désolé.
Voilà. Par contre, je vais profiter que tu sois là puisque toi, tu es journaliste professionnel, contrairement à moi qui est un petit bouseux d'amateur et qui travaille notamment pour plusieurs supports, dont l'Écho des Savanes. L'Écho des Savanes qui a été copublié entre Lagardère et Albin Michel, et Lagardère a décidé d'arrêter un certain nombre de titres. Ça a été le cas justement pour l'Écho des Savanes.
Oui.
Et là, il est question actuellement que Soleil reprenne le flambeau.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu as, toi, de ton côté comme information ?
Écoute, moi, j'ai aucune information précise à te donner. Je pense que tout a été publié à ce sujet, que ce soit sur les sites comme ActuABD ou BDZoom. Mmh. C'est-à-dire que Soleil a, donc le groupe Soleil a accepté de reprendre l'Écho des Savanes, mais également les éditions Albin Michel BD, c'est-à-dire Ces Femmes, qui, elles, était la propriété et des éditions Albin Michel et du groupe Hachette, dit maintenant Lagardère Active Media. J'adore le terme active dans l'affaire. Donc Soleil s'engage à reprendre ce journal, et c'est tout de même l'information la plus importante. Maintenant, on ne redémarre pas l'Écho des Savanes comme ça.
Oui,
c'est-à-dire qu'il faut reconstituer une équipe.
Et il faut recruter plein de bimbos en couverture.
Et il faut, ouais, ça encore, ça se trouve. Hein. Mais surtout, surtout, il faut une structure, une structure de presse. Donc Soleil a une toute petite structure de presse avec l'Enfeuse Mag et Suprême Dimension.
Plus le magazine qui est l'officiel de la bande dessinée, ils avaient arrêté.
Oui, oui, il y avait bande dessinée magazine également.
Oui, pardon,
il y avait
excuse-moi.
L'année de la BD. Mais enfin bon, donc c'est difficile de tout faire redémarrer comme ça en ne partant de rien, d'autant plus qu'il y a aussi la structure éditoriale également, en même temps, la nouvelle structure éditoriale à mettre sur pied. En gros, aujourd'hui, ça me paraît assez évident que le numéro d'été ne sera pas publié, enfin qu'on ne pourra pas publier un numéro cet été. Alors c'est un moment très important hein, dans les ventes. Donc peut-être un redémarrage au mois de décembre ou au mois de novembre, pourquoi pas. Enfin, c'est mon sentiment, hein. Je suis vraiment pas.
Non, mais ça, on comprend tout à fait les difficultés sur la reprise d'un magazine, puisque là, en France, on a le marché en nombre de titres au magazine qui est le plus dynamique, mais sur lequel il y a certaines difficultés effectivement sur la création de titres. Donc, on voit bien quand même. Que cela pourrait redémarrer, mais ce ne sera pas immédiat. Quoi.
Bah, et en tout cas, bon, il est souhaitable que ça redémarre quand même, hein, quoi qu'il en soit. On constate que la bande dessinée est peut-être en surproduction en librairie, mais en kiosque, ce n'est pas le cas. Mmh. Et là, je reprends les mots d'Hervé Loiselet.
Sur ActuABD, oui.
Qui est justement le rédacteur en chef de Suprême Dimension. Moi, ce que je constate également, c'est que quand un auteur doit livrer une bande dessinée pour un magazine qui a pour ambition de toucher plus de 50 000 lecteurs, ou du moins 50 000 acheteurs, il est forcé tout de suite d'avoir d'aller attraper, d'aller séduire un lectorat qui n'est pas forcément le lectorat habituel, fanatique du cartonné couleur ou du manga. Et ça, c'est un dynamisme qui, à mon avis, manque à tout le secteur. C'est-à-dire que grâce à l'Écho des Savanes, on ne peut pas oublier des enquêtes corses, les albums de Jules, Il faut tuer José Bové, d'autres choses comme ça qui sont vraiment allées chercher un lecteur ailleurs que le lecteur de base de la bande dessinée.
On va y venir tout à l'heure en chronique en Sarco premier qui a été prépublié dans Choc, le magazine des gens qui ne savent pas lire. Laurent Méliquian, je te remercie beaucoup.
Mais je t'en prie.
Et puis tu es le bienvenu dans nos studios si tu passes un de ces quatre.
Et puis n'oublie pas de bien voter.
Ça ne change pas, oui.
Alors, tu es cordialement invité à Paris pour début juillet, je ne vais pas te donner la date exacte, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, pour venir débattre avec les autres vieux cons de la CBD de ce nouveau prix Asie ACBD.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Laurent. Bien à toi.
Salut, salut.
Ciao. Et tout de suite, quelques grammes de publicité dans un monde de Brutas.
J'aime prendre des douches érotiques. Alors j'utilise le gel douche Chantal-Garcel. 3,70€ sous flacon de 2 litres. Le gel douche Chantal-Garcel. Je ne pourrais pas m'en passer.
Et Zou, on entame les sorties bandes dessinées, on a quand même bien avancé, on s'est dit avec Thomas, oula, sans du sport, ça va être dur de déborder.
Après ?
Bon, d'accord, ok, excuse-moi, effectivement, j'ai eu un méchant oubli. C'est que d'abord, il y a effectivement les chroniques, la revue de presse de Thomas. Donc...
Oui, tant qu'on est encore dans la bande dessinée, est-ce que tu veux parler de la dénomination pour la Japan Expo ou non ?
Après. Ah oui, tiens. Ben, oui. Autant le faire, oui.
Bon, on le fait, on attaque avec ça de suite alors, puisque Laurent Melchian en parlait tout à l'heure, la Japan Expo 8e édition aura lieu, c'est la 8e édition, hein, c'est ça ?
Oui,
aura
me
lieu
semble.
Du 6 au 8 juillet 2007.
T'aurais pu quand même lui faire une anti-sèche pour le coup.
Eh oui. Et donc là, on a la sélection officielle des Japan Expo Awards. Donc
là, c'est différent. C'est pas un comité de vieux cons qui écrivent dans France 2 ou dans RTL qui vote. C'est le public.
Voilà. Et donc parmi les nominés, on peut voir déjà dans la catégorie bande dessinée asiatique qu'il y a deux titres qui sortent un peu du lot au nombre de nominations. C'est les séries Death Note et Monster qui obtiennent chacune 3 nominations. Death Note pour la catégorie shonen, c'est-à-dire pour les garçons, le dessin et le scénario. Et Monster pour la catégorie seinen, le style plus âgé, le scénario et la meilleure traduction, adaptation. Sachant qu'il y a Monster, il y a également aussi 20th Century Boys du même auteur. Et puis d'autres séries qui sont moins nominées mais qui ne sont pas dénuées d'intérêt comme Nana ou la catégorie shoujo ou d'autres séries plus bourrine comme Berserk. On a également
attention puisque c'est en 3 parties, il y a bande dessinée asiatique, il y a animation et il y a film asiatique. Voilà.
La catégorie animation voit le couronnement en termes de nomination de Ghost in the Shell Stand-Up Complex Second Jig avec 4 nominations, si tu peux. Donc dans la catégorie seinen, version française, scénario et character design. On a également 2 séries qui sont dans le podium de tête au niveau des nominations. Il y a Monster également encore en animation.
Qui
avec
est en cours de diff sur Europe 2 Télé, une chaîne du groupe Lagardère Musique Active.
Voilà, donc nominé pour la catégorie CNN, meilleur scénario et version française, ainsi que l'excellente série de samouraï, Samouraï Champloo, avec la nomination.
Par la même équipe que Cowboy Bebop.
Exactement, de Shinichiro Watanabe, donc nominé dans la catégorie meilleur shonen, meilleur caractère design et meilleure version française. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Xavier, on va faire le running gag. Saint Seiya épisode G nominé dans la catégorie meilleur shonen. Oui. Alors de toute façon, on retrouve de toute façon dans le monde de la Japanime et du manga, on retrouve de toute façon chaque série qui marche bien en BD est adaptée en série animée, ce qui permet de retrouver Nana en BD et en animation, ainsi que d'autres titres, également beaucoup de titres de Clamp en animation puisqu'on a XXXolic, on a également Tsubasa Chronicle, etc. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Clamp qui nous écoutent, donc je pense à eux. également la catégorie film asiatique, c'est-à-dire les films live en prise de vue réelle.
Aïe.
Donc nous avons Cutie Oni, le film
Cutie Oni, c'est une série de manga qui a été créée par le créateur de Goldorak et Cutie Oni. Donc c'est
Go Nagai,
c'est une fille avec des gros nibards, une petite culotte et tout ça, et qui va affronter des gros monstres caoutchouteux. Le film, de ce que j'ai lu dans Animeland il y a 2 ans, il disait que c'était une ode au fan service, c'est-à-dire la séquence qui est prévue uniquement pour les mecs qui sont un peu seuls et qui ont la bave aux lèvres uniquement à la vue de la petite culotte. Voilà.
On a également dans les nominés, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, on va les citer. Il y a Guns and Talks, c'est paru chez Cubic Video. Itchy the Killer de Takashi Miike.
Un problème mental.
Que nous avions découvert à la Cinémathèque pour le film Extrême Cinéma. Nana, le film, donc il y a avec des vraies actrices, etc. Et Shinobi dont il est question dans le magazine de cinéma Score, dont nous allons parler ensuite. Voilà, donc c'était la Japan Expo, les nominations pour les Japan Expo Awards qui aura lieu. La délibération et les prix décernés auront lieu du 6 au 8 juillet 2007.
Vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end, il est midi 37 minutes et on entame seulement maintenant la revue de 13.
Et oui. Et donc nous allons parler maintenant d'un peu de cinéma, puisque il est question de Grindhouse dans le nouveau Score. C'est un numéro double, 164 pages, ils ont fait un gros effort. Spécial Grindhouse, spécial Pusher, spécial Cannes, spécial gros films qui vont arriver. 4,50€ numéro double. Donc en couverture, c'est évidemment Quentin Tarantino qui se livre dans une interview assez intéressante. De toute façon, il est impossible de rater une interview avec ce mec. Il y a un dossier sur évidemment Grindhouse, Boulevard de la Mort et le film de zombies de Rodriguez, La Planète Terror. Puisque Boulevard de la Mort va être présenté à Cannes, puisqu'il faut savoir que aux États-Unis, ce sont deux films, deux segments d'une heure qui sont sortis sous le label Grindhouse, c'est-à-dire les doubles programmations des années 70 auxquelles font hommage Rodriguez et Tarantino. Mais comme en France, d'abord il faut savoir que le film s'est totalement ramassé aux États-Unis, il n'est pas rentré dans ses frais. Et en France, le système de double programmation n'est pas vraiment aussi institutionnalisé qu'aux États-Unis.
Bah, il n'existe plus depuis les années 70. Donc, et encore, c'était les tout petits cinémas, des cinémas qu'on ne connaît plus à Toulouse. Le club 1, 2, 3, qui était place.
Place à côté du Mirail, non ?
Non, c'était place Wilson. Eh oui.
Et donc voilà, c'est pour ça que les deux films sortent pas en même temps et pas dans la même programmation. Ce qui fait qu'il va falloir payer double ticket pour aller voir les deux segments de Rodriguez.
Attention, en version longue. Les deux sont en version longue, c'est-à-dire que on aura la sortie en France en même temps que la sortie DVD aux États-Unis, puisque les deux films seront séparés là-bas.
Oui, ben voilà, c'est n'importe quoi quand même, parce que bon, ça revient à deux fois le prix. On a un dossier sur Pirates des Caraïbes 3, c'est un petit film fauché et indépendant qui va sortir bientôt.
Ouais,
avec,
mais je crois qu'ils sont dans la veine trip cinéma asiatique, trucs comme ça.
Oui, il y a Chun Fat qui est dedans, ouais. Et donc on a aussi des previews, puisque Score c'est quand même un magazine d'allumé de cinéma de genre quand même. Alors on a au choix, alors là par contre c'est la grosse tuerie des prochains films qui vont arriver. Donc on a Transformers, Die Hard 4, Harry Potter 5, Babylon Babies, Bourne Ultimatum, Les 4 Fantastiques Rise of the Surfer d'Argent, Pathfinder, Ratatouille, Chrysalis et Hostel 2. Ouais,
y a du monde, hein, y a tout, y a de l'animation 3D, il y a du mauvais remake de Terminator 2, il y a tout ce qu'il faut. Hein.
On a du film de bourrin avec des vikings, voilà. Et on a aussi donc dans ce magazine la présentation des films présents à Cannes. Et donc j'en ai parlé, Chrysalis, c'est le film qui est fait pour Score, c'est-à-dire comme le Shaitan qu'ils ont pas mal défendu, ou comme Virgile. Et ben là ils ont trouvé leur nouveau bébé, c'est Chrysalis. Donc c'est un film de SF, c'est un premier long métrage d'un français qui s'appelle Julien Leclerc, qui avait livré déjà une petite tuerie avec un court métrage, et là il attaque le long métrage avec un film de SF avec Albert Dupontel.
Ah où ?
Oui, question également de baston. Quand on sait que Dupontel n'hésite pas à s'investir physiquement dans ses productions, on peut ça laisse présager que ça va être un film qui va bien tuer s'il est bien foutu. Donc Chrysalis, nouveau film défendu par Score. Donc il s'agit d'un numéro double, 164 pages, Tarantino en couverture, et il est à 4,50€.
Et j'ai une dépêche que j'ai oublié d'annoncer tout à l'heure, c'est que ce soir, il y a la rediff du mariage de Lex Luthor. Seulement, ce sera en deux parties. Résumé des épisodes précédents. Samedi dernier, il y a eu donc des orages assez violents et qui ont entraîné notamment l'inondation apparemment d'un centre de distribution EDF, ce qui fait que Neuilly-sur-Seine, président Nicolas Sarkozy, et capital de M6 était dans le noir. Les switches, c'est-à-dire le système d'alimentation électrique de M6, comme toutes les très grosses boîtes qui tiennent énormément sur l'électricité, ils ont deux groupes électrogènes et ils ont des gros switches. Alors les groupes électrogènes, en général, ils enchaînent sans trop de problèmes. Mais en général, c'est les switches qui sont un point faible. Et à 20h pile, pouf, a plus M6, a plus M6 boutique, a plus W9, a plus toutes les chaînes M6. Squeezie, M6 Music et tout le reste. Gros problème, c'était à ce moment-là que devait être diffusé un reportage réalité sur TF1 et qui devait leur en mettre plein la gueule, c'est Off Prime. Et donc il n'a pas pu être diffusé. Ben du coup, il repasse la première ce samedi, aujourd'hui, tout à l'heure à 20h. Et donc le final de la saison 6 de Smallville où donc dans les deux derniers épisodes Lex Luthor se marie et plein de choses arrivent évidemment au Superman et tout ça, et ben ce sera en deux épisodes parce qu'ils ont dit non on va arrêter de foutre deux épisodes à la suite, on va en mettre qu'un. Donc ce sera la première partie aujourd'hui, la deuxième partie dans 8 jours. Si vous avez donc manqué M6 la semaine dernière, vous n'avez rien loupé. Ça tombe bien. Il est pile sur la fin du disque précédent, ça c'est du style. On va commencer avec un livre dont on vous a parlé la semaine dernière du titre. On vous l'avait dit samedi dernier à l'antenne. Le titre du livre venait d'être confirmé par le Conseil constitutionnel. Et justement, il m'attendait déjà tranquillement pour être chroniqué. Sarko Ier. La suite de la face cachée de Nicolas Sarkozy, toujours avec les mêmes auteurs. Philippe Cohen sur l'enquête, Richard Malka en l'adaptation en scénario BD et Rhys en dessin. C'est coédité par Vendouest et Faya. C'est donc la suite de la face cachée de Sarkozy où en fait on découvrait un peu la montée irrésistible de ce petit bonhomme qui est pas parti de très très haut pour aller jusqu'à la présidence. Et donc il en reprend le principe, mais cette fois-ci étendu à l'ensemble des candidats du premier tour et réduit sur la campagne des présidentielles à peine passée. Donc c'est un bouquin qui a été prépublié en temps réel, hein, si je puis dire, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il faisait les planches dans Choc Hebdo, le magazine des gens qui ne savent pas lire, ce qui est plutôt étonnant, mais en tout cas j'espère que ça les a instruits. On ne connaît le nom de l'album que depuis 15 jours. Il relate l'ensemble des événements comme l'ont fait Serge Moati dans La Prise de l'Élysée, qui a été diffusé le lendemain même sur France 3, et Jean-Paul Lepers, qui a été diffusé 6 jours après sur Canal+. On est dans le journalisme d'investigation, montage flash, pour coller au plus près de l'actualité, car c'est un véritable exploit. Les auteurs n'étaient pas encore dessus en janvier dernier quand on les a interviewés. Philippe Cohen produisait une série d'articles justement sur les sondés et les sondages. Richard Malka défendait Charlie Hebdo dans son procès pour insulte qui a été fait par le Conseil musulman de France, où tous les politiques candidats ont défendu le journal satirique. Tous, sauf Ségolène Royal. Et malheur au vaincu, ce n'est pas Sarkozy qui s'en prend le plus plein la gueule, mais bien elle. Les témoignages des dirigeants du PS promettent une sérieuse alali lors des prochaines législatives. Néanmoins, le petit Nicolas, la bande des ultra-gauches, José Bové, Bérou, mais aussi Chirac de Villepin et les instituts de sondage, tous en prennent plein la gueule pour leur grade dans cet album Enquête. Les citations sont absolument savoureuses. Par exemple, Thomas... Qui, d'après toi, a pu dire « Récolter des parrainages pour le FN en Bretagne, c'est comme vendre des bibles à Téhéran »
C'est...
En général, ils sont plutôt crus dans leur manière à prononcer. Ils sont très abordables par les journalistes.
Ils sont très
Ils sont très crus, dans, enfin ils sont très nature dans leur manière de parler. Ils sont très accessibles pour les journalistes.
C'est les chasseurs. Non.
Non. C'est Marine Le Pen. L'entourage direct de Jean-Marie Le Pen. Quand Sarkozy parle de la République, il nous fait plus vibrer que Ségolène. Alors on n'a pas le nom.
Ah, ça doit être
mais c'est un responsable national du PS. Ce qui paraît, c'est une. Donc voilà. Et qui c'est qui a dit à Azouz Begag, espèce de connard, salaud, je vais te casser la gueule, sale connard.
Sarkozy.
Voilà, gagné. Bref, on croyait avoir eu des présidentielles en surdose, et pourtant non, on en redemande encore, car on a chèrement vu une élection aussi disputée, aussi discutée, et aussi intéressante. La sortie est très proche des résultats encore tout frais, mais on n'avait pas encore tout lu, vu que l'outil de communication a pris le pas sur la politique, vu que l'appareil militant a été pitoyable, le terme est faible, que les blogs engagés ont été absolument nuls en contenu, j'en vise un personnellement que j'ai trouvé absolument vide de tout sens et inintéressant, préférant descendre les autres candidats, ce bouquin est absolument salvateur par son absence de langue de bois. Sarko Ier, de Philippe Cohen, Richard Malka et Rhys, ça vient de sortir chez Vent d'Ouest et Fayard, c'est la suite de la face cachée de Sarkozy, et vous pouvez réécouter l'interview des auteurs Malka et Rhys sur le site internet de l'émission, vous pouvez trouver en tapant supplément week-end, MP3, podcast, vous cherchez, vous trouverez l'interview, et sinon retranscrit grâce à Thomas sur le site actuabd.com.
Et c'est marrant parce qu'il y a la page de première double page où en fait c'est les envahisseurs, les candidats qui arrivent pour viser l'Elysée.
Et
c'est
oui, parce qu'on change complètement de génération, puisqu'on on quitte quelqu'un qui a 75 ans pour des cinquantenaires et ça y va sec.
Par exemple, pour Gérard Chivardi, extraterrestre dont la provenance reste mystérieuse même pour lui, de plus ses cordes vocales particulières ne lui permettent pas d'être compris par le commun des mortels.
Ouais, mais, enfin le chantier, on va le terminer au plus vite quoi. Attendez, moi je suis pas resté dimanche soir très longtemps, hein, j'avais un chantier lundi matin à 7h.
Olivier Besancenot, aisément identifiable par ses nombreux tocs tels que l'emploi des mots CAC 40, ultralibéral et Europe des marchands.
En même temps, être facteur à Neuilly, ça l'aide, hein. Il distribue le courrier premier intéressé, donc voilà. Sarko Ier, Philippe Cohen, Richard Malka et Rhys. On va passer une réédition, un truc complètement punk, ça me fait plaisir qu'il revienne. Garth Ennis au scénario, Steve Dillon au dessin, Preacher. Le premier tome s'appelle Mort ou Vif. Il est réédité dans la collection Vertigo chez Panini Comics. Voici enfin la réédition du titre culte de la collection adulte de DC Comics, celui où Garth, Gore, Ennis vous ferait vomir devant les dessins de massacre trop réalistes de Steve Dillon. L'histoire est relativement simple. Jess Carter, révérend à la dérive du profond Texas bouseux, fusionne avec une chimère mi-ange mi-démon, ce qui lui donne la voix de Dieu. En clair, si jamais il te dit « va te faire mettre », eh ben, il y a de fortes chances que les urgentistes vomissent en voyant votre chibre enfoncé dans votre fion. Enfin, ça, c'est pour les hommes. Une rencontre explosive qui fera passer la population de Hannyville à néant. Jess Carter se retrouve donc sans une seule ouaille pour faire tenir son église. Voulant savoir ce qui lui arrive et souhaitant en discuter de mots avec Dieu, Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Créateur, il part dans un voyage saignant et mortel avec son ex, Tulip, qui a tendance à appuyer très vite sur la détente, et Cassidy, un Irlandais qui pourrait fort bien être un vampire finalement. On a trouvé mille fois mieux comme compagnon de route, mais Jess aura sûrement souhaité ne pas avoir les séfarins de l'Empire des Cieux à ses trousses, et surtout pas le Saint des Tueurs. C'est avec plaisir, émotion et envie sadique que je tiens enfin la première réédition en français de ce roi de movie complètement taré depuis 8 ans. Blasphématoire, addictif, donnant envie de se saouler au whisky pour mieux hurler de rire devant l'intégrale de l'exorciste, Le plaisir absolu. Glenn Fabry, qui a exécuté chacune des couvertures de la saga, y commande son travail, étonnant de réalisme et bien meilleur que la dernière affiche de Tarantino. Si Robert Rodriguez avait des corones, il adapterait au cinéma. Si Jesus Franco avait de la cocaïne, il en ferait un opéra. Un comics d'horreur absolument gore, mais néanmoins à hurler de rire, un classique de la bande dessinée adulte. Preacher, tome 1, mort ou vif, réédité dans la collection Vertigo, chez Panini Comics, scénario de Garth Ennis et le dessin de Steve Dillon. Laurent Astier au scénario, c'est le deuxième tome de la série Cellule Poison. Le tome 2 s'appelle Qui suis-je ? Et c'est chez Dargo. Le premier tome était celui de l'immersion. Une jeune flic prometteuse, tout juste promue, Claire est engagée dans une opération en sous-marin par le commissaire Marshall. Un projet ambitieux qui a réuni plusieurs corps de police, de gendarmerie et d'administration d'autres États européens, afin de détruire de l'intérieur le plus terrible des fléaux frappant actuellement l'Europe. L'esclavagisme sexuel de femmes venues de l'Est. Après un changement de nom en forme de teasing, ce polar particulièrement sombre et social continue sa descente aux enfers, celui de la prostitution, du commerce, de la chair humaine et de l'esclavagisme. Partis de Lyon par un coup du sort, ils arrivent à pénétrer dans les réseaux mafieux de l'ancienne Yougoslavie, où d'anciens chefs de guerre font des razzias parmi les filles de leur pays pour les revendre à des macs, lesquels les battront, les mettront sur les trottoirs, sans aucune considération pour la personne humaine. Devant tant d'horreur et de déchéance, les nerfs craquent. Claire tombe dans l'enfer de la drogue, Zoran a deux doigts de faire caboter l'opération quand il retrouve sa sœur qui a été vendue par un réseau de prostitution. L'opération a été ambitieuse et risquée, elle risque de tourner à la Bérésina. Du dessin au dessin, rien à redire, Laurent Astier tient parfaitement la série. Sa belle de nuit illumine l'album, mais néanmoins complètement rongé par sa condition. Les couleurs bichrome accentuent encore le malaise. L'ensemble est magnifique, terrifiant, actuel. Cellule Poison, le deuxième tome s'appelle Qui suis-je ? De Laurent Astier, c'est chez Dargo.
Ça a un rapport avec Alexandre Astier, Laurent Astier ou non ?
Je n'en sais rien, tu lui poseras toi-même la question. Mais néanmoins, vu que ça se passe à Lyon...
Ah bah oui, forcément. Mais tu ne t'es pas documenté à ce sujet.
T'as pas une chronique là qui arrive là ?
Si, j'en prends le rapport.
Que Thomas peut bien évidemment parler puisque lui, il était en train de rédiger sa chronique pendant que je faisais les miennes.
Ouais, mais au moins, il n'y a pas de faute sur la mienne.
Ouais, c'est ça. Et pendant que Laurent était au téléphone, t'étais gentil, t'aurais pu l'aider quand même sur les dates. Vas-y, ouais. Mon cher ami, je crois que tu as Japanimation à l'européenne.
Je me suis fait sécher en direct par Laurent Méliquin, alors j'ai vite compris que décidément la BD c'était pas mon domaine, donc j'ai préféré me consacrer sur ma chronique ciné. Alors, donc moi je vais parler d'Oban Star Racer aujourd'hui. Pour vous rien vous cacher, donc c'est édité en deux coffrets chez l'éditeur Wildside. Je n'ai vu que le premier pour l'instant, mais c'est suffisant pour en parler.
Tu n'as vu que quoi ?
J'ai vu que le premier coffret, il y en a deux. J'en ai vu qu'un. Voilà.
D'accord, ok.
Donc, non, j'ai quand même vu 13 épisodes quand même. Bon. Alors, donc il s'agit d'une série française série créée, écrite et produite par Savine Yetman-Eiffel. Les génériques sont composés par Yoko Kanno, puisque.
S'il vous plaît.
Ouais, s'il vous plaît. Bon,
c'est la première fois que l'on voit d'ailleurs sur un
packaging.
Sur un packaging, ouais.
Alors qu'est-ce qu'elle a fait avant, elle ?
Oh, tiens, c'est bête, j'ai le baladeur qui est éteint. Ah, voyons, Cowboy Bebop, Macross Plus, qu'est-ce qu'il y a encore ? Plein de séries.
Ouais, bah ouais. Stand-up Complex.
Oui, exact, oui, tous les stand-up Complex. Il y a. Enfin, c'est la compositrice star au Japon, celle qui manipule les genres musicaux. comme elle respire.
Disons qu'il n'y a pas beaucoup de compositeurs musicaux stars au Japon. On peut les compter sur le doigt, les doigts.
Enfin, dans le domaine de l'animation, si quand même. Hein, il y en a une bonne vingtaine, mais c'est elle dont le nom revient le plus souvent.
Alors, pour les séries, oui. Après, pour les films, donc évidemment, il y a Kenji Kawai et Joe Hisaishi. C'est vrai que pour les séries, c'est vraiment elle qui est à laquelle tout le monde pense. Alors, c'est une série donc éditée chez Wildside en deux coffrets, le cycle d'Arwas et le cycle d'Oban. Alors, pourquoi ces deux noms ? Vous allez tout à fait comprendre. En l'an 2082, Eva, la petite Eva, 15 ans, abandonnée par son père, cherche à renouer avec lui. Faut dire que bon, il est parti à la sauvette parce que sa femme, en fait, elle est morte dans un crash de Star Racer. Mais celui-ci est le responsable de l'équipe terrienne de Star Racer. Qu'est-ce qu'un Star Racer ? C'est un vaisseau de course participant à une grande compétition interplanétaire dont la récompense suprême est le mystérieux prix ultime. Alors je vous rassure, ça n'a rien à voir avec Highlander, hein, le prix ultime. Voilà. Sous le nom de Molly, Eva va s'incruster dans l'équipe en route pour la planète Arwas, lieu des éliminatoires, et par un concours de circonstances va se retrouver aux commandes du Star Racer Arrow. Alors, vous l'aurez compris, pour les fans de Wipeout, il est fortement, on va dire que la référence évidente est la série de jeux vidéo de Psygnosis. Ça, c'est pour les vaisseaux. Et moi, j'aurais une autre référence à citer, c'est Evangelion, pour les designs des vaisseaux extraterrestres. Parce qu'Evangelion, en fait, c'est une série qui a pas mal innové sur le design des mechas. Puisqu'avant, c'était tout le temps...
Attends, tu veux dire, le design des mechas, c'était des grosses maquettes. C'est pour ça que tu as une référence directe au cutter, à tout plein de trucs, au bouclier.
Oui, mais t'as des vaisseaux qui étaient, enfin des anges dans Evangelion, par exemple, c'était le vaisseau, enfin l'ange, c'était là de l'ombre. C'était pas le.
Oui, c'est vrai qu'il y avait
des idées intéressantes comme ça. C'était un aplat, des fois c'était juste une idée ou un virus. Et ben là c'est pareil, les vaisseaux vraiment sont extrêmement innovants. T'as une lance à un moment donné, il y a une espèce de gros tanker qui fait penser au vaisseau Kirex de Wipeout, où on a plein de petites innovations comme ça justement qui font très 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 plaisir. Et puis tout vient et tout, rien n'est à la traîne. Le design des vaisseaux, le design des extraterrestres, vraiment assez impressionnant également, puisqu'on a ça peut aller d'un extraterrestre tout noir avec juste une petite boule blanche en guise de tête qui est lui-même son propre vaisseau, puisqu'il se métamorphose en vaisseau carrément. On a aussi le grand méchant, bon c'est une espèce de gros cyborg tout rouge. On a vraiment si tu les vois séparément, t'as vraiment du mal à croire qu'ils appartiennent à la même série, même si effectivement il y a quand même une continuité graphique. Il faut savoir aussi Ah, Xavier, ça fait plaisir.
Excuse-moi.
Il faut savoir que les humains n'ont pas de nez. Imagine-toi que c'est une planète que de Krillin. Ils n'ont pas de nez, donc voilà, c'est quand même un truc bon qui choque un peu au premier épisode, mais juste 5 minutes après, on s'y fait. Les personnages sont d'apparence assez simplistes. Puisque tiens, je te repasse le coffret, Xavier.
Ouais, mais ça passait dans tout WAM, ça, sur A3.
Oui, et c'est d'apparence simpliste, mais on s'aperçoit qu'il n'en est rien au niveau du scénario et au niveau finalement de l'animation également, puisque c'est assez élaboré. Par exemple, notamment, les techniciens ont innové avec des fumées opaques. Les fumées d'explosion sont opaques. Et c'est vraiment avec des petites astuces de découpage qu'ils arrivent à faire passer ça. Et c'est vraiment très très bien foutu de ce côté-là. C'est une série qui est entièrement pensée en amont et fait par un mec au look d'étudiant. Tu lui vois toujours avec une bière à la main et puis tu te dis ah putain c'est ce mec-là qui a imaginé créer cette série.
Ouais, c'est making of. Hein, attention.
Eh ben on le voit justement dans l'excellent making of qu'il y a dans le coffret, justement la suite est dans le deuxième coffret, et on voit que son appartement a été transformé en studio d'animation pour faire justement le pilote, et qui a été proposé ensuite aux investisseurs japonais. Et on voit que les japonais au début ils étaient un peu réticents pour travailler sur cette série, parce qu'ils se disaient ouais de toute façon les français c'est des branleurs, ils pourront pas assumer le rythme de travail. Alors non seulement les français sont avérés d'excellents travailleurs, mais ils ont appris plus vite le japonais que les japonais ont appris français.
Donc ça m'étonne absolument pas grammaticalement, hein, je veux dire.
Donc ça, c'est plein d'anecdotes qui nous sont révélées dans le making-of, mais en même temps, c'est très pertinent, c'est assez intéressant. Et puis la série, bon, faut avouer quand même que c'est quand même une tuerie, parce que on a aucun temps mort dans les courses, puisqu'il faut savoir que 90% de l'animation, 80% de la série, c'est quand même des courses. et il se débrouille vraiment super bien. T'as la musique assez se faire oublier, mais en même temps tu prends vraiment des boosts dans la gueule quand il y a des courses au bénéfice de l'aspiration ou avec des tirs, parce qu'il faut savoir que certaines courses se jouent avec des règles spéciales. Il faut détruire des cibles où il y a des portions de décor qui viennent se fracasser sur le cockpit. Alors quand même aussi une innovation au niveau de scénario de ce côté-là, au niveau justement du genre course. Et puis la 3D fonctionne super bien, la 3D cell shaded et voilà, ça tue, c'est carré, c'est propre, c'est assumé de bout en bout, et le découpage est vraiment super bien. Donc c'est une série franco-japonaise, Oban Star Racers en deux coffrets qui sont pas très chers, elles sont à moins de 20€ chacun. Le cycle 1, le cycle d'Arwas, donc on assiste aux éliminatoires pour essayer d'extraire 3 vaisseaux pour participer à la course ultime. Et le cycle 2, deuxième coffret, c'est le cycle d'Oban. Et là, on voit que les ramifications du scénario, rien ne semble jamais être ce qu'on croit. C'est vraiment, on voit qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Tiens, ils ont rencontré tel personnage, c'était pas fortuit. Donc c'est vraiment assez excellent. Donc Oban Star Racer en deux coffrets DVD, et c'est sorti chez Whiteside.
Eh ben merci Thomas. Et t'as entendu le gong ? On a tenu !
On a tenu à deux.
On a tenu à deux.
À trois,
et
à quatre.
Et même on avait quand même un planning qui était assez dense, et on a réussi à le tenir en une seule heure. Pas du sport maintenant ?
Pour la télé ?
Bah pas de télé, donc voilà, pas de sport, pas de rock, ni tout ça. Du sport reviendra la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne sais pas de quoi, si on va pas passer une interview ou un truc spécial, ou on se la joue un peu relâche.
Je sais qu'on a appris tout à l'heure en off que du sport avait vu Zodiac. Donc si nous on se démerde pour aller voir, on pourra confronter nos points de vue.
Ça va être chaud là, je pense.
Nouveau Fincher. Voilà.
Ouais. Allez, pour Sarko premier, pour la liste des 12 vainqueurs de la lutte finale, un petit spécial. Un disque que j'aime bien me passer des fois tout seul, ça me rappelle mon enfance stage et studieuse. Urban Dance Squad, Démagogue.
Due to the earthquake in the area you are calling, your call cannot be completed at this time.
Demagogue, funky demagogue, look alive. Wanna see a joke? Jack the look alike. Thinking a rap, but just grabbing the mic. The funky demagogue, funky demagogue. I got a spray can.
Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris en cours de route l'émission Supplément Week-end ?
Je peux faire le résumé, mais il sera totalement improvisé parce que j'ai pas eu le temps d'écrire.
Ah, donc, pour une fois qu'on n'écrit pas les trucs.
Donc on a eu en invité Alex.
Pour l'explosion d'usine qui a lieu le week-end prochain.
On a eu en invité par téléphone Laurent Méliquian de la CBD. Pour le prix décerné, le prix BD Asie décerné par la CBD.
Voilà, exactement, Asie à CBD.
Voilà, on a eu de la chronique BD, Sarko Premier, et puis comics de Panini Comics, etc. On a eu du coffret DVD avec des vaisseaux de course. On a eu du sport qui veut nous faire un coucou, mais ça vous l'avez pas eu.
Et... c'est en antenne, voilà.
Et voilà.
Nom d'un camarade socio-terrestre devenu ministre gouvernemental. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi vos commentaires. N'hésitez pas à vous chercher Supplément Week-end sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net ou chercher Supplément Week-end, podcast ou MP3 ou FMR dans Google, ça marche. Avec la suite des programmes sur Radio FMR, et ben sachez qu'à 15h vous aurez le potager, 16h scène transmission, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 19h Happy Hour, 20h la Cetero Experience, 21h30 Stay Tuned et vous écoutez FMR, nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net où on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence et même plaisir de discuter de choses et d'autres et de culture geek. Allez, ciao, bye, bye.